Merci de m'accueillir. Merci de me donner l'occasion de vous présenter la formation continue universitaire. Donc j'ai prévu évidemment une présentation, mais n'hésitez pas à m'interrompre, en général c'est le cas. Et j'essaierai de répondre à vos questions sur ce qu'est cette formation continue universitaire. Alors, je suis moi vice-président d'une association qui regroupe une grande partie des services de formation continue universitaire. Il y a environ 125 adhérents, 125 adhérents selon les années, comme il y a des regroupements d'universités. Du coup, il y en a de moins en moins, évidemment. Et on a à peu près 80-85 établissements qui sont réellement actifs. Donc c'est, j'en dirais quelques mots, une association qui forme, échange autour des pratiques. Je dirais que ça peut un peu s'apparenter à la DBS que je connais, puisque j'ai été enseignant à Sciences Po pendant, il fut un temps, il y a maintenant quelques années, dans le cadre d'un DESS, puis d'un master en gestion de l'information dans l'entreprise avec Martine Prévost et Elisabeth Gaillon. Donc effectivement, je vous connaissais, j'ai fait des cours d'ailleurs ici, donc c'est pas un lieu qui m'est complètement inconnu. Ça a été d'abord très rapidement un réseau assez informel. Vous verrez que la formation continue universitaire, elle existe depuis très très longtemps, mais très clairement c'est devenu un enjeu pour les établissements d'enseignement supérieur de plus en plus important. Et qui s'est constitué en association à partir de 2004 et qui aujourd'hui bénéficie d'une reconnaissance importante tant sur le territoire national, puisqu'on est par rapport aux présidents d'université qui ont eux-mêmes une conférence qui s'appelle la conférence des présidents d'université, on est un peu les référents, notamment lorsqu'on est amené évidemment à toucher à une dimension pas simplement formation continue aujourd'hui, mais formation, apprentissage tout au long de la vie, qui est un peu le concept qui se met en place au sein des établissements et pas simplement au sein des établissements. Et il y a également, puisque cette conférence fait partie d'un réseau européen, de la même manière une reconnaissance de notre activité dans le cadre de UCAN, avec des échanges avec nos collègues de différents pays. Alors le rôle de cette conférence, de cette association, il est un peu multiforme. À la fois, on est amené à représenter les universités dans le cadre de la formation continue universitaire auprès du ministère, auprès de notre direction générale, mais également auprès d'autres acteurs que peuvent être les régions, les Pôle emploi, les branches professionnelles, un petit peu tous ces acteurs qui concourent à porter et à accompagner notre activité. On est, alors bien sûr, l'idée c'est ce que vous faites ici, c'est d'échanger avec nos collègues universitaires, mais on insiste aussi beaucoup, puisque c'est une dimension qui va, peut-être les questions viendront un peu plus tard, sur ce qui différencie ces services formation continue dans les universités d'autres opérateurs. Il y en a évidemment quelques milliers, hein. On serait tenté de dire qu'ils n'ont pas tous la même importance, mais il y en a quand même quelques milliers. C'est évidemment le lien qui existe entre la recherche qui est portée par ces universités et les dispositifs de formation continue. Et vous allez voir dans la répartition de l'activité que ce point particulier apparaît. Et on cherche évidemment pas simplement à apporter au travers de nos actions les développements en matière de recherche, mais aussi à être nous-mêmes des acteurs sur les problématiques de formation d'adultes, de pédagogie d'adultes, avec des labos qui peuvent être universitaires, mais pas simplement universitaires. On organise également des événements. Il y a un colloque annuel qui est un lieu pour l'institution tant interne que vis-à-vis des acteurs extérieurs importants. C'est un colloque qui a lieu en général au mois de juin. Il est possible d'ailleurs que cette année il puisse se produire pour la première fois depuis 35 ans à Paris. Généralement on va plutôt en province, tout simplement parce que c'est plus facile à organiser, et comme je suis moi sur une université qui est Paris 6, l'université Pierre et Marie Curie, je suis dans les deux universités qui pourraient porter le colloque, et je peux vous assurer que trouver, même au mois de juin, des amphithéâtres de 350 personnes sur Paris, eh ben, c'est pas simple, parce qu'on est en pleine épreuve de médecine, donc ils sont tous surbookés. Donc on va tenter de le faire, mais c'est un événement important, puisque ça nous permet, notamment vis-à-vis des opérateurs régionaux, quel qu'il soit, ça va du rectorat, qui sont généralement académiques, mais du rectorat jusqu'aux régions, en passant par Pôle emploi, c'est un lieu d'échange, de communication, et ça permet souvent d'avancer des pistes de chartes de partenariat, qui quelquefois aboutissent et qui quelquefois ne restent que des projets, évidemment. On est tous persuadés en clôture du colloque que ça va se faire, mais ça ne se fait pas forcément à chaque fois. On va être aussi force de proposition pour nos tutelles. Alors, de plus en plus, on s'aperçoit que soit la conférence des présidents d'université, comme j'ai regardé un peu vos profils, je vais insister un tout petit peu là-dessus, soit le ministère tente d'avoir des accords avec les branches professionnelles, de manière à faciliter la relation entre les branches et les universités. Alors, ça ne touche pas que la formation continue. Ça peut toucher la recherche, ça peut toucher les stages, ça impacte énormément l'apprentissage qui est un élément très important, on y reviendra sûrement dans nos établissements, mais ça touche la formation tout au long de la vie et pour prendre l'exemple, les deux conventions, il y en a une qui est en phase de signature, l'autre qui vient de signer, il y en a une qui concerne le secteur de la banque. Où la formation continue apparaît dans la perspective de monter en compétence des publics bancaires, et on trouve également avec l'industrie métallurgique, l'UMM, avec cette même réflexion, c'est comment au travers de conventions de partenariat fixer l'ensemble des champs sur lesquels universités et branches professionnelles vont pouvoir travailler. Peut-être qu'au travers des questions, j'évoquerai d'autres projets aujourd'hui aboutis. Il y en a notamment eu un important avec le Fonds GCF Île-de-France sur la VAE, qui a été assez exemplaire. Voilà. Et puis on a un site, alors évidemment, DBS, un site. Hein. Alors c'est un site qui est, je ne vais pas vous dire que j'en suis complètement fier, mais parce qu'il est un peu plus tourné, je dirais, vers le réseau, donc vers l'interne que vers l'externe. Donc c'est un endroit où nos collègues, notamment où il y a un fort turnover dans les directions de ces services et dans les équipes, vont trouver un certain nombre d'informations, les textes évidemment fondateurs, mais aussi des exemples de conventions, de contrats, de relations qui existent dans telle ou telle région avec les financeurs, OPACIF, OPCA, etc. Vous irez le voir. Alors, quelques questions. Donc, j'ai structuré autour de quatre points. Mon propos, premier point, c'est la place de cette formation continue universitaire. Quand on regarde les effectifs, quand on regarde le volume d'activité, de se rendre compte que, à la fois, c'est une activité qui a une réalité, et en même temps, quand on regarde l'ensemble du volume de la formation continue au sens large, ça reste d'un poids relativement marginal. Et la question, c'est pourquoi. Donc il y a des raisons qui sont liées au positionnement de ces services, et il y a d'autres raisons qui sont peut-être liées à des freins que l'on peut rencontrer. Alors, cette formation continue universitaire, on ne va pas passer en revue l'ensemble des textes, mais la mission des universités autour de l'accueil des adultes en reprise d'études, c'est une mission qui est très ancienne et qui n'a jamais été remise en cause. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est sur une loi responsabilité des universités, la LRU, qui rappelle que parmi les objectifs des universités figure la formation continue, sans qu'il y ait de hiérarchie entre, même si d'instinct on va en avoir, entre la recherche, entre la formation initiale, entre la formation continue, et avec, en dernier point, la partie ouverture à l'international. La réalité, c'est vrai que recherche, formation initiale, ce sont les deux domaines d'activité qui sont les plus débattus dans les conseils, qui apparaissent de façon assez naturelle. Et la formation continue reste une activité au même titre que les autres, mais peut-être un petit peu moins évoquée dans les stratégies, dans les contrats quinquennaux que l'université signe avec son ministère de tutelle. La LRU qui va être toilettée, hein, là il y a les assises. de l'enseignement supérieur qui sont destinés à toiletter, peut-être à réformer cette loi LRU. Mais quand on regarde les discussions, nous on a évidemment participé au débat dans le cadre de ces assises, on est plus sur l'idée de modifier la gouvernance qui était induite par la LRU et qui semblait donner au président tout pouvoir, avec les excès que ça peut occasionner dans un milieu où l'échange et la démocratie, une certaine démocratie, parce qu'on pourra en discuter, apparaît comme un acte fondateur. Voilà, il y a l'idée, on va redonner un petit peu plus de pouvoir à certains conseils en matière de formation, en matière de recherche, en matière de pilotage administratif, mais en aucun cas ce toilettage ne concernera les périmètres référencés dans la LRU. L'information continue continuera à être une mission. Alors après, je sais bien que ce qui va vous intéresser, c'est de savoir où on trouve l'information, notamment sur ces actions de formation continue. On va être confronté à une difficulté, c'est que les universités vont construire, en ayant soin de maintenir cette autonomie dans leurs décisions, des dispositifs de formation continue qui peuvent être très distincts d'une université à une autre. Ce qui a existé pendant très très longtemps, ce sont des services communs. Services transversaux, dont l'avantage, au-delà du fait qu'ils portaient l'activité formation continue stricto sensus, c'est qu'ils étaient dotés de statuts particuliers, qu'ils étaient dotés par ailleurs d'un conseil de direction, conseil consultatif selon les lieux, qui regroupait des représentants autres que les universitaires, notamment les financeurs, les régions, et qui par ailleurs étaient dotés d'un budget spécifique, tout simplement parce que la formation continue universitaire, elle est à la fois du côté du code de l'éducation et en même temps du côté du code du travail. Et que donc il fallait bien être en capacité de déléguer à une structure le suivi des fonds de la formation continue et en cas de nécessité de répondre aux interrogations des financeurs, quels qu'ils soient, sur le bon usage de ces fonds. Donc on avait une situation un peu particulière qui d'ailleurs a pu prêter flanc à de fortes critiques de la part de certaines universités, considérant là qu'on avait, sans le dire, une composante d'enseignement, mais qui n'était pas réellement une composante comme les autres, puisque avec son propre budget, sa propre direction, ses propres conseils, sa propre stratégie, quelquefois ses propres formations. Voilà. La réponse, ça va être de mieux associer l'activité formation continue aux composantes d'enseignement, je dis composantes, c'est-à-dire les unités de formation et de recherche, je pense que vous connaissez, mais aussi les instituts, hein, les IUT, les universitaires de technologie, à une époque les IUP, les IAE aujourd'hui, etc., etc. Et donc d'avoir un service qui sera plus un service d'impulsion du développement en formation continue des diplômes des composantes qu'un service réellement porteur de ses propres certifications et ses propres formations. Dernière tendance qui est liée à une conséquence de la LRU, mais plus récente, c'est le passage aux responsabilités compétences élargies. Je ne sais pas si vous avez suivi ce débat. C'est-à-dire qu'on a dit aux universités jusque-là, moi j'ai fait partie de quelques conseils d'administration, quand vous aviez à gérer un budget, en gros, vous vous battiez avec vos collègues d'autres composantes pour 15% du budget réel, c'est-à-dire le budget de fonctionnement. Et tout ce qui était masse salariale, 85% à peu près du budget, n'était pas géré par l'université, puisque c'était une dotation du ministère en fonction des postes qu'on avait. Aujourd'hui, on a dit aux universités, eh ben, vous allez gérer l'ensemble. C'est-à-dire que d'un seul coup, un président est passé de 50 millions à gérer à 400 millions. C'est à peu près, je crois, le budget de l'UPMC. 400 millions, en disant, ben voilà, vous avez maintenant la responsabilité de vos recrutements. Si vous souhaitez recruter des contractuels, vous pouvez le faire, mais sur une masse salariale qui, évidemment, dans une négociation avec le ministère, vous imaginez aujourd'hui, sous contrainte. Hein. Et du coup, les présidents se sont dit, il y a deux lieux où on peut-être avoir un peu des marges de manœuvre. Tout ce qui touche à l'alternance apprentissage. Là, il y a des sources et des ressources qui peuvent servir amortir les difficultés que je vais avoir à correctement gérer mon navire, et puis la formation continue, avec beaucoup de fantasmes derrière. Et donc, ils ont éclaté, pour certains, les services communs, pour construire des services purement administratifs et mettre toutes les ressources dans les composantes. C'est pour ça que selon les universités, le point d'entrée sera le service commun, ou pourra être la composante d'enseignement pour essayer de voir si la formation elle est ouverte en formation continue ou pas. Logiquement, enfin non pas logiquement, légalement, tout diplôme universitaire, toute certification peut être obtenu selon une des quatre modalités que sont la formation initiale, la formation continue, l'alternance et la validation des acquis. Donc logiquement, l'alternance est un peu particulier puisque ça nécessite un accord de la région, mais une certification peut être de façon naturelle, ouverte en FI, en FC et en VAE. Après, ça ne signifie pas nécessairement que un diplôme en formation continue produit son groupe spécifique. On va commencer à voir apparaître dans des groupes des étudiants et des stagiaires de la formation continue qui suivent les mêmes cours parce qu'on va avoir de plus en plus de mal à boucler financièrement les actions de formation continue spécifiques qui nécessitent d'avoir 12 ou 15 inscrits dans un même groupe. Mais en fait, on a ces quatre possibilités-là. On va voir apparaître aussi de plus en plus une dimension régionale de nos activités. C'est-à-dire que aujourd'hui, il serait, alors qui plus est en Ile-de-France, où vous avez 17 universités indépendamment de l'ensemble des écoles, il serait aberrant d'ouvrir un même diplôme en formation continue à Paris 6 et à Paris 7 ou à Paris 5. Je pense que ce sont des universités qui ont des domaines voisins. Sur un marché qui est un marché difficile, car on reste, et ça c'est important, sur un marché concurrentiel, on est soumis à la concurrence, c'est préférable d'arriver à construire une certification ou un parcours ensemble plutôt que de se faire concurrence entre nous sur des marchés qui aujourd'hui ne permettent pas de porter des groupes spécifiques par exemple. Par contre, on pourra imaginer d'avoir plus des logiques concurrentielles, mais concurrentielles avec des géographies un peu éclatées, entre Cergy-Pontoise d'un côté et Évry-Villeneuve de l'autre, évidemment, pour répondre à des besoins locaux. Donc, coordination régionale, coordination nationale, on monte de plus en plus d'opérations, notamment quand on touche à la formation ouverte et à distance, avec plusieurs établissements qui vont porter un même certificat, un même diplôme, lorsque c'est possible. Donc on sera plus sur les licences pro, les DUT, les diplômes de ce type, parce qu'en master c'est devenu de plus en plus illisible et très spécifique. Pareil pour que une équipe pédagogique porte un dispositif sur l'ensemble du territoire. Coopération à l'international, alors on est effectivement sollicité pour des bonnes ou des mauvaises raisons par certains pays pour pouvoir bénéficier de préparations souvent à distance, notamment avec un diplôme qui s'appelle le diplôme d'accès aux études universitaires, qui est le bac de la deuxième chance, et qu'on nous demande beaucoup du côté marocain notamment, où on n'a pas l'équivalent, ou du côté tunisien on n'a pas l'équivalent. Et évidemment, il faut s'assurer que derrière on est capable sur place d'accueillir ces publics dans les universités, ce qui n'est pas forcément toujours évident, local je parle. L'offre que l'on propose aujourd'hui dans ces services formation continue, c'est une offre qui s'est énormément diversifiée. Vous trouverez à la fois, vous allez voir quelques chiffres des formations certifiantes, c'est-à-dire le fait que l'on porte des diplômes, qui peuvent être des diplômes nationaux, hein, ces fameux grades européens que sont le LMD, mais aussi des diplômes d'université. Et notamment, par exemple, dans les facultés de médecine, vous avez énormément de diplômes d'université, de spécialisation, qui ont une vraie reconnaissance sur, je dirais, le marché, mais qui ne sont pas des diplômes nationaux, simplement parce qu'on est plutôt sur du tout utilitaire, des formations qui ne vont pas forcément durer dans le temps et qui ne nécessitent pas toute la procédure d'habilitation, d'évaluation propre aux diplômes nationaux. Et puis vous avez d'autres dispositifs que l'on trouve là aussi dans les établissements. Dans quasi tous les établissements, vous trouvez des services validation des acquis de l'expérience, validation des acquis professionnels, ces deux dispositifs, ces deux décrets. Vous allez trouver aussi dans certaines universités, c'est plus récent par contre, des centres de bilan de compétences, Je pense à Cergy, mais on en trouve beaucoup, notamment en province. Mais bon, Cergy. Et l'idée, c'est plutôt dans cette posture en réseau, de faire en sorte que ces bilans fassent des petits en réseau universitaire pour que ça puisse se trouver aussi, pas simplement à Cergy, mais qu'à la limite, on puisse nous envoyer des personnes qui en auraient besoin sur Cergy ou dans d'autres universités franciliennes. Voilà. Alors, je fais un focus sur la VAE parce qu'après, on va faire un point sur les chiffres. Alors, la validation des acquis. C'est très 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 ancien. Hein. Les premières validations, ce sont les titres d'ingénieur au nom de l'État. Donc on est. Voilà. Ceci dit, on n'en a pas validé beaucoup à l'époque. Et ça existait déjà. Et le premier texte qui continue à être utilisé, c'est le décret de 1985, validation des acquis professionnels, qui permet à une personne de pouvoir accéder à une préparation à un diplôme, même s'il n'a pas les titres requis à l'entrée. Donc, vous avez une expérience professionnelle qui va être jugée par une commission satisfaisante pour rentrer en master, même si vous avez le bac ou pas le bac d'ailleurs. Alors, pas le bac en master, c'est plus rare, mais j'en ai déjà vu. Mais vous avez par exemple une licence, vous pouvez rentrer directement en M2, vous avez un DUT, vous pouvez rentrer en M2. C'est votre expérience professionnelle et personnelle qui va être jugée comme satisfaisante pour rentrer dans ce niveau de certification, avec la possibilité de vous exonérer de partie de module ou de module. Simplement, c'est binaire, vous réussissez le diplôme, vous l'avez, vous ne réussissez pas le diplôme, vous n'avez rien. Hein, donc, c'est vrai, je vais un peu persifler sur mes collègues, les universités ont pas mal utilisé ce dispositif, parce que quelque part, ce n'était pas très très engageant. Ça permettait pour ceux qui avaient effectivement le bon niveau et la réussite d'obtenir la certification, mais du moment où ils n'avaient pas leur 10 sur 20, ils n'avaient rien. Ça reste un décret qui fonctionne. Il y a à peu près, je vais vous le dire de mémoire, 20 000 demandes de VAP, validation des acquis professionnels par an. Une petite université, je dirais, enfin une belle université, 20 000. Et il y en a 13 000 qui se voient autorisés à rentrer via ces dispositifs dans des certifications. Donc une petite université est une université qui est finalement pourrait être composée, s'ils sont tous au même endroit, de candidats validés. Deuxième procédure possible, qui date d'un premier décret qui est le 92, qui, elle, va reconnaître l'expérience professionnelle au titre de l'attribution d'un diplôme. Donc là, on est déjà dans quelque chose de tout à fait différent, qui va poser question aux universités, évidemment. En 92, vous pouviez valider l'ensemble des unités d'un diplôme, sauf une. Vous aviez le choix. Donc vous ne pouviez pas obtenir, par la voie de la validation des acquis, l'attribution de la certification, mais par contre, un allègement majeur. Hein. Donc les universités qui se sont saisies de ce décret en 92, qui sont d'ailleurs les premières qui vont passer en 2002 sur le nouveau décret, vont valider l'ensemble des unités d'enseignement et ne pas valider par exemple le stage, la période pratique, et il appartenait à ce moment-là au candidat de produire cette période pratique, de revenir avec la validation de cette période pratique et d'obtenir son diplôme. Le nombre de validations totales par ce parcours-là était quand même relativement réduit. 2002, on peut valider l'intégralité du diplôme à partir du moment où celui-ci est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Il est ouvert en FI, en EC, etc. et donc en VAE. Une difficulté, et puis un petit détail qui ne va pas être tout à fait un petit détail, une difficulté, c'est que d'un seul coup, les enseignants-chercheurs de nos établissements vont devoir admettre qu'on peut obtenir des compétences autrement qu'en suivant leur cours. Ça, dans certains lieux, je ne vais pas cafeter, pour certaines composantes, c'est pas évident, ça reste encore relativement difficile. Alors, il y a des disciplines où c'est interdit aujourd'hui pour des questions de pratique illégale, je pense à la médecine. Bon, je vous avoue que ça me rassure. En tant que patient, je préfère savoir que mon médecin, on ne lui a pas validé ses acquis. Mais on a des questions sur les infirmières, par exemple. Hein, les infirmières qui viennent d'obtenir le grade de licence et qui disent « bah oui, moi je n'ai pas le grade de licence, hein, donc j'aimerais bien l'avoir. Parce que demain, si je postule dans un autre établissement, peut-être qu'on va privilégier la personne qui a le grade de licence. » Et donc, comment je peux l'obtenir? Alors, pour l'instant, on est en capacité d'expliquer que ce n'est pas possible, puisque ce n'est pas le grade qui est validé, mais c'est bien le diplôme. Bon, ça va, à mon avis, pas durer très très longtemps. Mais ce que dit le conseil et ce que dit le ministère de la Santé, c'est attention, il faut faire attention de ne pas révéler des pratiques illégales reconnues finalement par la VAE. Donc ces précautions-là, on peut dire qu'en tant que citoyen, on a moins de temps qu'elles soient prises avant. Mais par contre, pour toutes les autres certifications, oui, les enseignants vont être obligés de concevoir que finalement, il y a d'autres parcours possibles pour arriver aux mêmes compétences, l'expérience professionnelle, et évidemment, ils vont être présents dans les jurys, et là, il s'agit de jurys, ils vont être présents dans les jurys qui vont juger du parcours du candidat et de la correspondance entre les compétences acquises dans le cadre de son parcours professionnel, voire personnel, puisqu'il n'y a pas que le parcours professionnel, et les compétences qui sont avérées à la fin du diplôme auquel il postule. Alors ça, c'est une révolution. Alors j'évoque toujours cette anecdote. J'étais enseignant dans un master de politique publique, conduire et évaluer les politiques publiques, et il se trouvait, on était dans les années 2003-2004, on commençait à mettre en place la VAE, et mes étudiants qui étaient en alternance, je leur ai dit, voilà, on va travailler sur l'évaluation d'une politique publique et la politique VAE appliquée à notre établissement, puisque ça me permettait de leur donner les informations sur ce qui se passait dans cette université, qui n'était pas l'UPMC. Et puis, ils ont trouvé ça extraordinaire. Et la VAE, c'est formidable. Jusqu'au jour, ils ont appris qu'il y avait quelqu'un qui allait rentrer dans les diplômés de l'année, comme eux, qu'ils n'allaient jamais voir, c'était une réalité, et qui était, eux, lui, en train de préparer la VAE. Et là, ils ont trouvé que c'était quand même... comment ça, on ne le voit pas? Il ne suit pas de cours? On retrouve, ce qui est bien, effectivement, pour les autres, n'est pas forcément bien pour soi. Et là, c'était que des étudiants. Donc, on va buter sur cette difficulté première. Donc, ça, ce n'est pas tout à fait un détail. Alors, un deuxième point, qui n'est pas un détail non plus, mais on ne va pas forcément mesurer les conséquences pour nos établissements, c'est que toute la partie accompagnement rentre dans le domaine concurrentiel. C'est-à-dire que les certificateurs, quels qu'ils soient, ont une partie qui est liée à service public, liée au portage de la certification, et une partie qui est concurrentielle avec la nécessité, ça va être une des difficultés, pas avec les financeurs, au passif, mais une difficulté avec la région, expliquer que bah oui, ça a un coût et qu'on est bien obligé d'afficher l'ensemble des coûts du portage de l'accompagnement par... notre service d'accompagnateur qui est différent de nos services publics. Alors après, c'est le découpage. Donc on va beaucoup travailler sur le phasage entre la demande d'information du candidat qui a le droit d'être informé. On va rajouter, nous, université, à cette demande d'information un avis, on va dire, de recevabilité de sa demande. Alors, la recevabilité administrative, c'est simple, c'est 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de référence du diplôme. Vous imaginez, quand vous préparez un master, 3 ans, c'est souvent insuffisant, mais il a le droit quand même de déposer son dossier, c'est un droit individuel. On va lui donner un avis de recevabilité plus pédagogique. C'est l'enseignant du diplôme qui va juger de sa demande et dire elle est bien dans le champ et dans la référence du diplôme, donc sans m'engager, parce qu'on ne peut pas s'engager du tout, mais vous devriez pouvoir aller au bout avec des perspectives de validation partielle, conséquente. Et puis après, il choisit. Choisir veut dire il arrête, parce qu'il considère que c'est trop lourd, que ça va être trop difficile, que c'est trop cher. Enfin, ça, c'est son droit individuel. Ou alors, il contractualise. Et dans la contractualisation, veut dire que nous, on s'engage au bout du parcours à le présenter devant un jury, puisque différence avec le secondaire, c'est que nous, l'entretien avec le jury est obligatoire. Et entre les deux, il a l'accompagnement qu'il peut choisir de suivre ou pas, qu'il peut choisir de suivre à l'université ou ailleurs, et en aucun cas, et c'est là où on va être très vigilant pour éviter tout contentieux, on ne pourrait refuser un candidat parce qu'il n'a pas été accompagné par nous. Alors si vous insistez, je pense que dans certains jurys qui ont l'habitude de voir des productions liées à l'accompagnement interne, c'est peut-être plus facile d'obtenir une validation. Mais en tout cas, il a le choix complet d'être accompagné ou de ne pas accompagné. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est engagé dans une démarche qualité, ça c'est le travail que j'évoquais avec le Fonds Gécif Île-de-France. Donc il y a des chartes d'engagement auprès des candidats. Il y a un cahier des charges précis de l'accompagnement qui est soumis en Île-de-France. Le fonds GESIF Île-de-France intervient assez fréquemment dans le financement. Donc il est soumis évidemment au fonds GESIF. On est obligé de le prépositionner avant parce qu'on ne souhaite pas, ni eux, ni nous, faire rentrer dans les dispositifs VAE qui sont quelquefois très longs. Des personnes qui seraient dans une situation d'échec à coup sûr. Mais maintenant, et c'est arrivé, on peut prendre toute précaution et vous pouvez quand même avoir un candidat qui dit « je m'en moque, j'y vais quand même ». Un candidat accompagné va passer entre, je dirais, en moyenne 9 mois, entre le moment où il contractualise et le moment où il passe en jury. Mais on a des situations, notamment sur des doctorats, où les publics vont passer 18 mois, parce qu'on est sur des choses... Donc c'est un investissement, donc on ne peut pas cacher que c'est un investissement tant dans une organisation personnelle qui est plus ou moins favorable. Hein. Je travaille, j'ai famille, j'ai tas de choses comme ça. Voilà. Donc on ne peut pas masquer ça. Ce qui fait que quand vous regardez les chiffres, eh bien vous en avez eu en 2010 4282 qui sont passés en jury. C'est beaucoup, pas beaucoup, ça je vous laisse... sur un total, au niveau tous les organismes certificateurs de 53 000, sachant qu'une grosse partie des certifications est portée par le secondaire, hein, donc par les GRETA, et les, enfin, indirectement par les GRETA, dans le cadre des BTS notamment. On retrouve cette tendance d'ailleurs dans les chiffres des jurys VAE, puisque dans l'université, aujourd'hui, 50% de la VAE va porter sur les licences professionnelles. Parce que c'est très professionnalisant, donc en termes de compétences, c'est beaucoup plus facile à associer au parcours professionnel. On a aussi les masters, mais c'est quand même sur les licences pro qu'on a l'essentiel, la majorité des demandes et de VAE, et d'ailleurs des résultats positifs. Quand vous touchez au DUT, qui est sur 2 ans et qui représente en volume horaire 1350 heures, bah vous vous apercevez que c'est plus compliqué d'obtenir une VAE sur le DUT que sur une licence professionnelle. Voilà. Auquel cas, on va conseiller à la personne qui ne serait pas au niveau de la licence pro de passer par la validation des acquis professionnels, de rentrer quand même en licence pro avec un ajustement de parcours. On va pouvoir lui valider sur le parcours de la licence pro certaines unités pour lesquelles il est parfaitement compétent. Donc on continue à exploiter le 85 comme on dit, hein, parce qu'il peut être tout à fait intéressant et ça peut être une réponse. C'est, je dirais, la différence peut-être avec d'autres accompagnateurs, c'est que nous on est capable de proposer d'autres solutions plus pertinentes pour le candidat, sachant qu'évidemment entre le coût d'une VAE et le coût d'une reprise de formation, pour lui c'est pas tout à fait la même chose non plus, hein, donc par contre ce côté-là on sait pas forcément toujours le gérer. Voilà, c'est assez stable. J'ai pas les chiffres 2011 parce que c'est pas encore consolidé du côté du ministère, mais si je fais référence à l'Île-de-France, on sera sur une situation relativement voisine entre 2010 et 2011, 4003, 4004. Ce qui s'est renforcé, c'est, vous le voyez ici, mais ça a été assez continu, c'est effectivement la validation totale. Donc aujourd'hui, un candidat, il a une chance sur deux d'avoir une validation totale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas du tout de validation, hein, mais ça veut dire qu'il aura des prescriptions proposées par le jury. Ça va ou vous avez d'autres questions sur la VAE? Donc du coup, on revient sur les chiffres. Alors, j'allais dire... commentaire, 340 000 stagiaires. Bon, là aussi, c'est relativement faiblement cyclique, mais un peu conjoncturel. C'est-à-dire que on est dans une période déjà en 2010 où s'amorcent les difficultés économiques qui font que c'est pas tant les financeurs à l'époque. Aujourd'hui, c'est les financeurs ont des problèmes à mobiliser les fonds de la formation professionnelle comme il y a quelques années, mais c'est plus certaines réticences des individus à se lancer dans des investissements formation, sachant que le moment n'est pas propice parce que les plans de départ volontaires on les sent venir, parce que les difficultés sectorielles on les sent venir et qu'ils préfèrent rester dans l'entreprise plutôt que de partir en formation. 340 000. Alors, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que finalement la part du diplômant est relativement faible. une bonne partie des publics viennent chercher ce que nous on va appeler du qualifiant. Alors le diplômant, c'est le diplôme national. Le qualifiant pouvant être du diplôme d'université, mais regardez le volume horaire moyen, on est à 150 heures. On n'est pas sur 450 heures de licence pro, on n'est pas sur 500 ou 550 de master, je pars sur une année, de 1000 de master, on n'est pas sur les 1250 de DUT. On est vraiment quand même sur des formations qui sont relativement courtes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les universités, alors ça c'est, ne font pas que du diplômant, font au contraire beaucoup de formations qualifiantes, relativement courtes, notamment, alors je pense que la tendance est un peu moins marquée en Île-de-France, mais plus en région, notamment lorsque la région intervient, elle n'intervient pas sur des formations très longues, elle demande à ce que les dispositifs de validation des acquis s'appliquent à chaque individu pour ajuster le parcours et individualiser le parcours. Donc, par contre, on ne bouge pas trop, hein, on est entre 140 et 150 sur les dernières années, donc on sent bien que là, on est arrivé à un palier qui évolue. Alors les chiffres 12,6% sont entre 2010 et 2009, je ne saurais pas trop vous expliquer pourquoi, il faudra que je regarde université par université. Quand on regarde et on compare à la situation nationale, on voit que en termes de nombre de stagiaires, en termes d'heures stagiaires, on est un peu plus représentatif, ce qui est normal, parce que même à 150 heures, on est quand même sur des parcours qui sont relativement longs. Mais on va représenter, selon ce qu'on prend, entre 2 et 4% du volume global d'activité formation continue sur le territoire. Ce qui ne fait pas des 80 universités des acteurs majeurs du marché de la formation continue. On voit par contre que sur la VAE, et là c'est intéressant, hein, on dit beaucoup que les universités n'en font pas assez. Je partage cet avis, parce qu'on est sur des procédures qui sont tellement lourdes et on a tellement de mal. Alors, ça s'explique parce que j'ai évoqué, hein, c'est que si vous allégez la procédure, vous pourriez avoir des réticences de certaines composantes d'enseignement à continuer leur application. Donc on y va par palier. Donc là, je suis en train de faire passer mon université sur un outil à distance, pour au moins gagner du temps dans la gestion au quotidien. Mais on voit quand même que ces jurys VAE, ils sont au-dessus en termes de poids par rapport à l'ensemble des VAE que la formation continue elle-même. Je ne dis pas que c'est suffisant. En même temps, on est quand même sur des certifications niveau 3, niveau 2, niveau 1. Et qu'une bonne partie des projets autour du développement de la VAE concernent les niveaux 5 et infra 5, hein, avec des projets qui sont assez curieux, enfin c'est comme ça, parce que on se dit ça peut être un dispositif intéressant, mais du coup les universités sont assez peu concernées par les projets du ministère en la matière. Oui, il y a l'idée de prendre les jeunes qui sont sortis sans diplôme du système éducatif, de les mettre en alternance, et ensuite au bout de leur alternance, de leur valider les acquis pour leur donner un diplôme. Là, on est en train de tirailler les décrets dans tous les sens. Je ne sais pas, la question étant de savoir si, in fine, ils ont des compétences qui permettent sur le marché de l'emploi d'être reconnus indépendamment du diplôme. Diplôme étant un point important. Donc, il y a des projets pour lesquels, je dirais, l'enseignement supérieur est complètement... Enfin, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Je vais vous donner un exemple pour aller abonder dans votre sens et vous montrer la souplesse. Enfin... dont nous sommes capables ou que les textes nous permettent. On a eu une demande de la profession bancaire il y a un an à peu près pour former des conseillers clientèle avec déjà une certaine expérience à ce qu'eux appellent conseiller expert, c'est-à-dire plutôt sur la gestion de patrimoine, mais de petits patrimoines. Le problème étant que nous n'avions pas, au niveau d'une licence professionnelle, c'était vraiment sur ce niveau 2 qui était souhaité par la profession bancaire. Le problème, c'était qu'on avait un public qui était déjà, on va dire, expert d'un domaine de la banque. Nous n'avions pas de licence professionnelle disponible sur ces métiers du patrimoine. On passait très vite sur le master, en fait. Hein, donc, il y en a quelques-uns sur Paris, Dauphine, etc., et ailleurs, le besoin, on était en gros au mois de janvier 2011, le besoin c'était d'ouvrir ça en septembre 2011. Alors si on rentre dans une logique de création d'un diplôme On n'ouvre pas. Hein. On ouvre peut-être en 2012 si tout se passe bien, mais s'il y a un grain de sable, c'est plutôt 2013. Donc on s'est appuyé. Alors en plus, on avait une base qui était quand même la clientèle, gestion, banque, connaissance du métier. Il était illusoire, enfin, ou suicidaire de proposer, de revoir ces éléments-là, des gens qui avaient 2-3 années d'expérience. Donc on a construit un parcours de licence professionnelle. L'avantage, c'est que le parcours ne demande pas, ne donne pas lieu à habilitation. Il est habilité par l'établissement, puisque c'est un ensemble, enfin un petit ensemble d'un diplôme existant. Donc on a créé un élément de parcours qui fait à peu près 160 heures, complètement centré sur les compétences liées à la gestion de patrimoine. On a validé tout le tronc commun de cette licence professionnelle qui était le métier de base de la banque. Et on a construit un parcours alterné, c'est-à-dire qu'évidemment ils re-rentraient dans leurs agences. Et le travail le plus compliqué, ça a été de faire en sorte que entre Lille, Marseille et Paris, on ait exactement la même lecture de ce parcours et des conditions d'entrée dans le parcours. Et qu'on ait la même façon de traiter les candidats qui y rentraient. Qu'on soit BNP Paribas de Rouilly Diderot ou qu'on soit la Société Générale de Corse, parce qu'on a trouvé qu'il y avait pas mal de gens qui venaient de Corse. Alors, on ne me demandait pas pourquoi, peut-être qu'il y a des patrimoines là-bas à gérer. Eh bien, en l'espace de 8 mois, le parcours a été créé, il s'est ouvert dans 5 universités qui étaient les premières prêtes, et aujourd'hui, il est étendu dans une quinzaine d'établissements. Donc on est capable de ça aussi. On ne le sait pas forcément. Mais vous avez dans les services formation continue des ingénieurs dont c'est le métier. Là, je suis en train de signer la semaine prochaine un DU sur l'actuariat avec la profession des assurances. Pareil, on est dans la même logique, hein, c'est-à-dire de prendre en compte les caractéristiques du public, de prendre en compte le besoin à la sortie souhaité par l'organisation et de construire un parcours. Si ce parcours peut rentrer dans le cadre d'un diplôme reconnu, je veux dire un grade européen, on s'appuie sur ce grade parce que c'est notre métier quand même, c'est ce qui est dans notre domaine d'activité premier. Sinon, on peut aller soit vers un diplôme d'université, qu'on peut tout à fait, c'est plus long parce qu'il y a des délais, faire certifier et faire rentrer au RNCP, soit sur un parcours qualifiant qui est là évidemment dans notre rapport RNCP. Les textes, moi j'ai tendance à dire, touchez pas à grand chose quoi, parce que les textes ils permettent plein de choses. Alors ce qui va être une des difficultés qu'on va rencontrer pour finir sur la VAE et pour prendre ces candidats à la licence pro qui ont 160 heures hein, sur une licence pro qui en fait 450. Hein. Alors certains ont peut-être 180, d'autres ont peut-être 140, hein, ça peut dépendre du parcours antérieur. Mais en moyenne, ils sont bien sur le cœur de métier patrimoine. C'est quand vous voulez passer en validation des acquis professionnels VAP. Ils rentrent dans la licence. Vous dites, ben, telle unité, accueil clientèle, je laisse tomber. Gestion d'une agence, je laisse tomber. Vous avez vu. Donc, ok, je valide bien. Vous les rentrez sur les 160 heures. Ils sortent. Vous attribuez les crédits européens sur l'ensemble du parcours. C'est-à-dire que sans le dire, ces fameux crédits OCTS, vous avez entendu parler, c'est à chaque fois que vous faites une année, vous avez 60 crédits. Hein, donc quand vous faites un DUT, vous en avez 120. Quand vous faites une licence, vous en avez 180. Et quand vous allez au bout du master, eh bien, vous en avez 300. Et quand vous rentrez par une validation VAP, vous dites, je vous autorise à poursuivre, j'ajuste le parcours. Eh bien, la personne qui serait rentrée au bac, qu'on aurait validé pour rentrer en licence, à la sortie de la licence, elle a ses 180 crédits. Et ça, les universités se sont dit, mais ouf! Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est sûr d'attribuer ces 180 crédits? Est-ce qu'on maîtrise bien? Mais c'est la réalité. Donc ces personnes-là, il se trouve que beaucoup étaient déjà BTS. Hein. Mais pas tous. Certains sont rentrés avec un bac et un brevet de la banque. Ben, ils arrivent avec, sur le diplôme, une licence professionnelle et les crédits qui afféront. Il n'y a pas écrit quelque part, j'ai fait ça par une VAE partielle avec un truc. Voilà. Hein, heureusement. C'est aussi une question qu'on me pose souvent, est-ce que quand vous faites de la formation continue, on voit que ça s'est produit en formation continue. Effectivement, si vous passez une licence à 57 ans, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est pas tout à fait de la formation initiale. Mais votre diplôme, il sera exactement même que celui en formation initiale. Et pour la VAE, c'est pareil. Si vous obtenez une licence pro en VAE, il n'y a pas écrit « obtenu par la voie de la validation des acquis ». C'est interdit par la loi, et heureusement. encore une fois, si vous avez passé l'âge requis pour être étudiant, peut-être qu'on va se dire il est passé par ailleurs. Bon, ça c'est juste, vous le regarderez, mais c'est un peu une indication par certification qui montre qu'effectivement, donc il y a à la fois la formation continue, l'apprentissage et la formation initiale. Alors, à ce sujet d'ailleurs, quand on parle, alors je ne vais pas parler forcément d'apprentissage, mais d'alternance, vous avez deux dispositifs qui sont pas redevables de la même situation pour le candidat. Quand on parle d'apprentissage, on est dans formation initiale. Quand on parle de contrat de professionnalisation, on est en formation continue. Et pourtant, ils pourraient être dans le même groupe, et souvent ils sont dans le même groupe. Alors, on n'est pas sur le même statut, et donc on n'est pas sur les mêmes types de contrôles. L'apprentissage, vous avez un contrôle via le CFA qui est un contrôle de la région. Quand vous êtes sur un contrat pro, c'est un contrôle en fait de l'OPCA qui prend en charge la formation de l'individu. Donc ça aussi, aujourd'hui, si vous voulez, c'est plutôt du côté du contrat de professionnalisation que le développement s'opère dans les universités. Même si on est en gros à 85-15, 85% de contrats d'apprentissage et 15% de contrats de professionnalisation. Mais c'est plus facile à mettre en œuvre parce que c'est, j'allais dire, de gré à gré entre une entreprise, un OPCA, un individu et une université sans passer et par la région et par qui habilite toutes ces formations-là et par le CFA. Des dérives que vous pouvez retrouver, c'est que vous avez des universités qui vont ouvrir certains de leurs diplômes uniquement sous forme d'apprentissage. Donc vous allez pouvoir vous retrouver, même si une licence pro vous intéresse, avec une fin de non-recevoir, sauf en passant en contrat pro, parce que l'université n'ouvre pas son diplôme en dehors de l'apprentissage. L'université francilienne, qui a une stratégie très volontaire en la matière, c'est Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée, il y a plus de 20% des étudiants qui sont des apprentis. Pour une université comme Paris 13, qui est plutôt bien située en apprentissage, il y a 23 000 étudiants, il y a 1 500 apprentis. Donc on n'est pas à 20%, hein, on est plutôt à 5-6. Ça veut dire, ce que dit le président de Marne-la-Vallée, il y a effectivement des diplômes qui sont qu'en apprentissage. Je pense qu'en licence pro, il y a 95% des licences pro qui ne sont qu'en apprentissage. Bon, du coup, évidemment, ça réduit le potentiel de formation continue. Et très clairement, Marne-la-Vallée est une des universités d'Île-de-France qui a le moins de formation continue, parce qu'a mis, je dirais, toute son énergie sur l'apprentissage. Pour des questions de professionnalisation, ça c'est quand on est gentil, et aussi pour des questions financières, parce que c'est quand même nettement plus lucratif que la formation continue. Mais ça c'est quand on est en persif. Alors je vous ai fait une petite comparaison, mais j'ai pas trouvé les chiffres 2010, donc je suis désolé que, évidemment, pour des gens qui font de la documentation, c'est une critique que vous pourrez me formuler, les chiffres 2006. Mais c'est pour dire, voilà, on évoque le fait que les universités sont peu présentes, ce qui est vrai. Par contre, on voit combien le privé, qu'il soit lucratif, je dirais à vous, hein, la DBS, hein, vous êtes là, hein, vous êtes aussi quelque part concurrent des universités sur un certain nombre sur votre cœur de métier. Hein. On pourrait faire aussi des formations. Certaines universités pourraient faire des formations autour de la documentation. Hein. Moi, j'en ai fait sur la veille stratégique, vous pourriez en faire aussi, hein, parce que bon, la veille est quand même un champ d'investigation important pour les documentalistes. Donc on voit quand même qu'il y a soit plus de 60, près de 70% qui fait référence au privé, lucratif ou associatif ou non lucratif, et que finalement, même si on prend les Greta et les universités avec le CNAM, ça fait 15% du total. Oui, en même temps, c'est peut-être un peu normal que les universités représentent 2%, parce qu'on est quand même sur le haut. Et qu'on ne fait pas de la formation au management 10 heures et vous êtes manager, on ne fait pas de la formation à gestion des conflits 10 heures et vous gérez les conflits, c'est pas notre métier, quoi, hein, donc c'est un peu compliqué. Alors, vous voyez, on est sur des données jaunes 2009, et donc il faudrait que j'aille voir le jaune 2011, il faudrait essayer de les récupérer, les reconstruire, parce qu'elles ne sont pas réalisées comme ça. Mais c'était pour vous donner une tendance, il n'y a pas une modification majeure sur les 3 dernières années, hein. J'irais malheureusement pour nous. Autre information intéressante, c'est la répartition des financements. Parce que finalement, les gens qui viennent en formation continue, ils se financent comment ? Alors quand on regarde un focus 2008, et après j'ai une projection à partir des tendances Île-de-France 2010, on voit qu'il y a quand même une grande différence entre les autres et nous. et notamment sur le fait que dans les établissements d'enseignement supérieur, une partie importante du financement est portée par les individus eux-mêmes. Pas forcément parce qu'ils payent le coût complet, mais parce que souvent les prises en charge sont partielles, et donc du coup ils sont amenés de plus en plus à intervenir avec plus ou moins d'importance dans le financement des actions qu'ils souhaitent. Si on regarde l'Île-de-France, et cette fois-ci en 2010, la tendance est encore plus marquée, puisqu'on va plutôt du côté des particuliers être autour de 40% que 25%. Pourquoi cette fois-ci ? Ben parce que du côté des fonds publics, en Île-de-France, la région a financé sur 2011-2012 25 places pour les 17, hein, pas par université, pour accueillir des demandeurs d'emploi. Donc forcément, les fonds publics, l'État, j'en parle pas, les fonds publics se réduisent comme peau de chagrin, et du coup, quand quelqu'un vient à l'université, même s'il est financé par la région, il n'est pas financé entièrement, de moins en moins en Île-de-France, donc il est de plus en plus actif dans le portage financier de sa formation. Sur les OPCA aussi, on est sur la même. Il y a des gens qui représentent ici des OPCA, hein, si je me souviens bien de la liste. On est dans la même situation. Hein, c'est vrai que la tendance à devoir, et c'est je pense important, d'accompagner et de financer plutôt les bas niveaux de qualification, se fait au détriment évidemment des gens qui demandent un master. Même si, je dirais en Île-de-France, on regarde les chiffres, il n'y a pas un désengagement. Les congés annuels de formation représentent toujours une part essentielle de nos activités, mais une part relativement conséquente. On ne peut pas dire en Île-de-France que ça diminue. C'est plus fonds publics particuliers qui a eu un effet de vase communicant. Alors, vous voyez, on est sur des données jaunes 2009, et il faudrait que j'aille voir le jaune 2011. Pour essayer de les récupérer et les reconstruire, parce qu'elles ne sont pas réalisées comme ça. Mais c'était pour vous donner une tendance. Il n'y a pas une modification majeure sur les trois dernières années. Hein. J'irai malheureusement pour nous. Autre information intéressante, c'est la répartition des financements. Parce que finalement, les gens qui viennent en formation continue, ils se financent comment ? Alors quand on regarde un focus 2008, et après j'ai une projection à partir des tendances Île-de-France 2010, on voit qu'il y a quand même une grande différence entre les autres et nous, et notamment sur le fait que dans les établissements d'enseignement supérieur, une partie importante du financement est portée par les individus eux-mêmes. Pas forcément parce qu'ils payent le coût complet, mais parce que souvent les prises en charge sont partielles, et donc du coup ils sont amenés de plus en plus à intervenir avec plus ou moins d'importance dans le financement des actions qu'ils souhaitent. Si on regarde l'Île-de-France, et cette fois-ci en 2010, la tendance est encore plus marquée, puisqu'on va plutôt du côté des particuliers être autour de 40% que 25%. Pourquoi cette fois-ci ? Ben parce que du côté des fonds publics, en Île-de-France, la région a financé sur 2011-2012, 25 places pour les 17, hein, pas par université, pour accueillir des demandeurs d'emploi. Donc forcément, les fonds publics, l'État, j'en parle pas, les fonds publics se réduisent comme peau de chagrin, et du coup, quand quelqu'un vient à l'université, même s'il est financé par la région, il n'est pas financé entièrement, de moins en moins en Île-de-France, donc il est de plus en plus actif dans le portage financier de sa formation. Sur les OPCA aussi, on est sur la même. Il y a des gens qui représentent ici des OPCA, hein, si je me souviens bien de la liste. On est dans la même situation. Hein, c'est vrai que la tendance à devoir, et c'est je pense important, d'accompagner et de financer plutôt les bas niveaux de qualification, se fait au détriment évidemment des gens qui demandent un master. Même si, je dirais en Île-de-France, quand on regarde les chiffres, il n'y a pas un désengagement. Les congés annuels de formation représentent toujours une part essentielle de nos activités, mais une part relativement conséquente. On ne peut pas dire en Île-de-France que ça diminue. C'est plus fonds publics particuliers qui a eu un effet de vase communicant. Alors on a essayé aussi toujours sur à partir du jaune FCP de faire un point sur la part des stagiaires. Répartition en fait, c'est, ici on les voit apparaître un petit peu plus, hein, mais enfin bon, je crois qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus de ce texte-là, de ce graphique-là. Vous avez une caractéristique dans les universités, c'est ce que l'on a appelé pendant très longtemps la formation permanente, promotion sociale, et que l'on qualifie aujourd'hui de reprise d'études. C'est-à-dire la possibilité de souhaiter suivre une préparation à un diplôme sans passer par une convention ou un contrat de formation professionnelle, simplement en vous installant dans un amphi, en vous inscrivant légalement à l'université. Et de ce fait, les droits d'inscription, eh bien évidemment, sont pris en charge par les particuliers, ce qui explique la différence entre, je dirais, d'autres tendances nationales et puis la tendance universitaire, c'est que nous, effectivement, les particuliers, assez naturellement, hein, ils viennent reprendre leurs études et donc ils prennent en charge le droit d'inscription qui peut monter à 500 euros quand c'est une formation d'ingénieur, 250 quand c'est un master et un peu moins de 186, je crois, quand c'est une licence. C'est ce qu'on appelle les reprises d'études. Alors les reprises d'études, c'est très difficile à repérer. On a bien une case hein, dans l'inscription, mais la personne qui les reçoit, qui les inscrit, elle est en tête de case, formation continue, formation initiale. Hein. Nous, ça nous intéresse pourquoi, en tant que directeur, c'est parce que d'abord c'est un public qui est un public plus âgé. C'est un public, quand on arrive à les sortir de la formation initiale, dont les résultats sont moins bons que les étudiants et qui nécessiteraient donc d'être un peu accompagnés pour réussir. Donc c'est plutôt dans ce cas-là la réussite de ces publics-là. Alors c'est difficile d'avoir une vision globale parce que on va pas forcément partout appliquer les mêmes critères. Sur une reprise d'études qu'on sort de la formation initiale, moi j'utilise plus de 28 ans, parce que je sais qu'à plus de 28 ans ils peuvent pas être inscrits à la sécurité sociale étudiante. Je sors tous ceux qui sont en thèse, tous ceux qui sont en médecine, en me disant je vais que ceux-là, je sais que je dois pas les prendre. Maintenant, il peut y avoir des moins de 28 ans qui sont des reprises d'études aussi, hein, des gens qui ont arrêté à 22 ans et puis qui reprennent. C'est pour avoir une idée de la masse. Et puis, 2 ans d'interruption d'études. Au moins 2 ans. Une université francilienne, 23 000 étudiants, 2 000 formations continues, 2 000 reprises d'études. 4 000, sur 20, donc pratiquement 20%, qui ne sont pas des publics formation initiale classique. Alors, c'est important de le révéler. Certes, ils payent. Certes, ceux-là sont pris en compte par le ministère dans la dotation, puisqu'ils sont dans les mauvaises cases de toute façon. Mais c'est surtout important de comprendre les difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils reprennent leurs études. Hein, vous imaginez quelqu'un qui a fait un BTS, qui dit « Tiens, je passe une VAP, je rentre dans un master. » Le prof, il ne va pas forcément savoir qu'il y a un BTS qui vient d'arriver, et ça va y aller. Considère qu'il doit suivre. Ce que je dois noter dans un cours face à un enseignant-chercheur, si j'ai pas l'habitude, ça va prendre un petit peu de temps. Et donc, il se décourage, donc on a un taux d'abandon qui est plus important qu'en formation initiale, et puis surtout, ils ont plus de difficultés à réussir. Donc en les discriminant, j'allais dire positivement, je mets des guillemets, je peux envisager des accompagnements méthodologiques, du tutorat à distance ou présentiel, des regroupements pour les aider à passer ce point d'entrée à l'université qui est difficile. Donc c'est un public, ce public reprise d'études qui peut être tout à fait important selon évidemment la communication, la politique de l'établissement. Vous avez aussi des demandeurs d'emploi. Ça, c'est une autre difficulté, qui ne sont pas pris en charge par Pôle emploi au travers de leur projet, qui veulent quand même suivre le diplôme et qui, en toute illégalité, viennent s'inscrire à l'université en reprise d'études. Et c'est sûr que si Pôle emploi est autorisé à s'inscrire sans forcément que l'on demande de droits spécifiques, on pourrait les voir apparaître. Et là, on est obligé de rien dire, parce que sinon, là, c'est quelques milliers à chaque fois aussi hein, qui peuvent exister. Bon, ça, c'est les effets pervers de la surréglementation, je dirais. Hein. De belles réussites, alors, ça, c'est bon, à s'autosatisfaire, c'est important. Diplômes nationaux qui sont effectivement qui sont reconnus, hein, on s'aperçoit, c'est une tendance assez récente, que, y compris dans les branches professionnelles, le choix entre un certificat de qualification et un diplôme national qui prendra en compte les spécificités du CQP, on préfère le diplôme national. Il y a, alors je ne sais pas si c'est rassurant, mais je pense que ça permet une portabilité de l'individu à l'extérieur plus facile. Voilà, je pense qu'on peut après s'entendre sur... Donc tant mieux en termes de sécurisation des parcours, quand on a commencé à parler de ça, on a réactivé le rôle et sa dimension transversale du diplôme national qui permet de ne pas être associé nécessairement et qu'à une branche, ce qui est souvent le cas d'un CQP. Alors on va avoir quelquefois des associations CQP diplôme national, hein, où on retrouve dans le diplôme des parties de CQP, on valide dans le cadre du CQP des parties de diplôme. Tous ces montages-là existent. Hein. Il faut juste être vigilant pour pas simplement... parce que nous, notre job, c'est quand même d'offrir, enfin, ou de permettre à un candidat d'avoir des compétences, on va dire, clés, qui lui permettent de progresser professionnellement et pas simplement le métier, hein, parce que c'est pas notre boulot. Hein. Donc quand on travaille avec des branches, on est vigilant pour que cette partie qui permet... alors ça peut être la langue, hein, l'anglais, une langue vivante, mais ça peut être aussi des outils plus conceptuels, d'interrogation de pratique, moins directement technique, ça apparaît quand même dans la formation. Deuxième point, l'élargissement de l'accès aux études supérieures. On ne le sait pas forcément, on fait beaucoup de communication là-dessus, mais des diplômes qui permettent d'offrir une deuxième chance, seconde chance, on va dire. Il peut y en avoir d'autres. Une deuxième ou une seconde chance, ça dépend, pour acquérir l'équivalent du bac. Le diplôme d'accès aux études universitaires, c'est le bac, organisé un peu, de façon un peu particulière, mais il vous permet des poursuites d'études, il vous permet de passer des concours. C'est mal connu, c'est pas professionnalisant, évidemment, hein, même si on essaye de mettre des modules professionnels, donc c'est pas pris en charge facilement par Pôle emploi, et souvent nous on sait que c'est un moyen de construire la suite, hein, parce que du coup on reprend du français, on reprend des maths si on le choisit, on fait une langue, donc c'est un moyen de se rassurer, de se conforter dans son projet et de pouvoir poursuivre aujourd'hui ou demain. Il y a beaucoup d'inscrits dans le DAE, il doit y avoir chaque année peut-être 12 ou 15 000 candidats DAE certifiés. Validation des acquis, je vous ai donné les chiffres, tout ce qui est autour de l'alternance. La professionnalisation, évidemment, c'est un élément qu'on va introduire beaucoup dans nos dispositifs certifiants ou qualifiants. Et puis, un point qui se met en place, c'est les formations ouvertes et à distance, c'est-à-dire la prise en compte de la difficulté des personnes à pouvoir suivre à plein temps une formation. Et on commence à voir apparaître des diplômes qui sont accessibles à distance, les plateformes de téléenseignement avec des tuteurs, des regroupements d'établissements. Et ça, c'est une tendance qui est relativement récente, mais qui commence à se développer. Quand vous regardez tout ça, je dirais qu'une université peut, si elle le souhaite, couvrir presque toutes les situations individuelles. Je n'entendais pas par là que toutes les universités décident du jour au lendemain de prendre en compte toutes les situations individuelles. Parce que, évidemment, vous êtes quand même sur une organisation où le principe, c'est plutôt l'amphi. Les personnes qui rentrent le même jour à la même heure, qui sortent le même jour à la même heure, quand vous rentrez sur des dispositifs plus individualisés, c'est pas tant l'amphi qui manque que l'organisation derrière. Hein, on dit souvent, imaginez que, et c'est une possibilité sur certains diplômes, on passe tout en formation ouverte et à distance, hein, ça veut dire qu'on n'a plus des enseignants mais des enseignants-tuteurs. Tout ce qu'il faut pour répondre spécifiquement à une demande individuelle, en prenant en compte les acquis antérieurs, en prenant en compte l'objectif de l'organisation, si c'est l'organisation qui porte le projet, il y a vraiment, je ne sais pas ce qu'on pourrait rajouter d'autre aujourd'hui. Après, on est sur des gros navires difficile à bouger, donc c'est plus facile sur une université de 12 000 étudiants que sur une université, moi la mienne, elle est, c'est compliqué, quoi, à 32 000. On est sur le syndrome des supertankers, mais on peut faire. Alors pourquoi ces universités sont-elles sous-représentées ? Il y a effectivement, en matière de formation continue, c'est vrai, à la fois les objectifs affichés, 50% d'une classe d'âge diplômée du supérieur, transformés à 50% d'une classe d'âge diplômée de l'université, diplômée de l'université veut dire que le premier diplôme, c'est la licence. Avant, on avait le DEUG, maintenant c'est la licence, il n'y a plus de DEUG. Donc ça veut dire qu'on est en train de viser, de passer tout le monde au niveau licence ou licence pro. Alors, conséquence, il y a toute une partie du public qui sera moins redevable immédiatement de la formation continue universitaire, sauf si dans la progression souhaitée par l'organisation, on demande une certification au niveau master. Donc on a une partie, je dirais, de notre activité là, qui, c'est plutôt bon signe, hein, qui nous échappe puisqu'elle est reversée du côté de la formation initiale. Par contre, et là ça devient un peu plus intéressant, il y a tout ce public qui est exclu de ces 50%, qui ont bloqué avant, qui ont pu bloquer bien avant le bac, et ceux-là, ce sont des publics intéressants pour nous, mais particuliers. Quand vous avez des candidats au diplôme d'accès aux études universitaires, ils ressemblent en rien à vos étudiants. Alors on peut dire que les étudiants, ils sont de moins en moins bien formés, ils savent de moins en moins de choses. Bon, c'est des problèmes de génération. Moi, de mon temps, c'était mieux. Mais en tout cas, ceux du DAE, ils ont beaucoup plus de difficultés en matière de méthode, de capacité à rester 3 heures assis sur une chaise, parce qu'ils ont interrompu leurs études très très en amont, 2-3 années avant le bac, et que cette partie-là, elle n'est pas acquise, quoi. Hein. Donc on est sur des publics particuliers. Donc on voit bien que on va avoir dans nos activités à la fois la nécessité de penser à ceux qui sont exclus de cet objectif-là. Sinon, si la norme c'est la licence, moi je dis souvent, ceux qui n'ont pas la licence, ils vont avoir du mal à s'employer. Aujourd'hui c'est ceux qui n'ont pas le bac, demain ce sera peut-être ceux qui n'ont pas les 3 années d'enseignement supérieur. Donc il faut s'y intéresser. Il faut s'y intéresser avec des moyens d'accompagnement qui ne soient pas « je reproduis ce qui a été leur échec ». Parce que si je dis, ah ben, vous inquiétez pas, hein, vous attendez 2 ans et après je vous mets dans un amphi où vous serez encore 150 comme il y a 2 ans, ben, c'est la même chose. Ils ont besoin d'être accompagnés, petits groupes. C'est coûteux. Après, c'est un choix de société, mais c'est coûteux. En tout cas, c'est un public qui va changer. Donc on verra dans quelques années si on s'y intéresse autrement. Par contre, on sera toujours, vous l'avez vu, hein, une grande partie de l'activité est sur des formations spécifiques. Ce besoin-là, qui est l'accumulation de compétences liées à une évolution dans son métier ou une évolution des technologies liées à la recherche dans son métier, tout ça, les universités sont toujours capables de le faire. Et vous avez vu que ça représente 60, 65, 70% du volume d'activité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se restreindre. Mais par contre, d'un point de vue sociétal, ce public qui change va questionner sur la façon dont les universités et nos services vont tenter d'y répondre. Avec plus d'individualisation, mais je reviens à la diapo d'avant, on a ce qu'il faut pour le faire. C'est pas qu'une question de volonté, mais c'est aussi une question de volonté de s'intéresser à ce public. C'est pas gagné, évidemment. Alors, c'est d'autant pas gagné que il suffit pas d'être diplômé du supérieur. Ce qui a changé avec la LRU, c'est que maintenant les universités sont jugées sur leur capacité à insérer professionnellement les étudiants diplômés. Et là, on nous a dit, bah non, on ne va pas regarder si vous avez fait entretien d'embauche, hein, on va regarder combien sont insérés professionnellement. Alors là, ça a été, on a dit, on va vous donner ça. On a effectivement sorti, vous avez vu les enquêtes, il y en a chaque année, 95% là-dessus. Sauf qu'on ne regardait pas forcément là où ils étaient embauchés. Donc quelqu'un qui sortait avec un master de conseil en entreprise et qui était serveur chez McDo, il était inséré, quoi.
C'est qui vous avez
tué? C'est le ministère. Vous les trouvez sur...
Le ministère.
Oui,
c'est privé, c'est ça?
Pardon?
Un privé?
Non. C'est, en fait, les universités doivent faire des enquêtes d'insertion auprès de leurs étudiants. Et ensuite, voilà. Alors après, le ministère consolide tout ça et vous donne des statistiques par filière. Ils ont dit non, on va pas faire comme ça, maintenant on va regarder d'un peu plus près où ils sont quand même. Donc vous allez nous dire où ils sont, pour que évidemment on considère pas qu'un McDo à Bac plus 5 en master conseil ou gestion des entreprises, c'est tout à fait l'objectif de l'insertion pour lui, quoi. Donc là, on n'a pas encore ces enquêtes-là, mais je pense que la réalité, c'est qu'évidemment, ça nous a permis d'avancer vers l'insertion pro, puisque des services se sont mis en place, mais c'est devenu aussi un objectif, vous voyez, qui touche beaucoup plus la formation initiale que les reprises d'études. Hormis que la région Pôle emploi, dans les marchés qu'elle sous-traite aux organismes de formation, dont les universités, demande maintenant à ce qu'il y ait un accompagnement vers l'emploi. Et vous n'êtes choisi qu'à partir du moment où vous avez un panel d'entreprises liées à votre secteur qui, quelque part, pourrait recruter vos demandeurs d'emploi. Alors après, bon, voilà. À chaque fois qu'on essaie de contourner ce qui nous dérange, évidemment, on... Donc c'est vrai que cette activité-là, elle a le vent en poupe, hein, c'est-à-dire que ça recrute pas mal hein, sur l'insertion professionnelle, puisque c'était une activité complètement nouvelle, mais ça commence un petit peu à bousculer la conception même des parcours de formation, la conception même des diplômes, puisque de fait, la partie sortie vers la recherche n'est qu'un objectif secondaire, et heureusement, par rapport à la partie insertion professionnelle. Mais c'est vrai que bon, ceux qui ont suivi des études universitaires, ce qui doit être le cas de tout le monde ici, tout ce qu'on a subi, c'était parce qu'on pensait qu'on allait tous être chercheurs. Hein. Alors il y en a quelques-uns, mais enfin, en même temps, on pense aux autres qui ont souffert. Voilà. Autre point qui freine, c'est la capacité de l'université aujourd'hui à mobiliser des ressources pour surmonter ces difficultés financières qui ne vous auront pas échappé, c'est le fait qu'elle apparaisse comme étant une référence recherche, c'est le syndrome de Shanghai, et parce que ça mobilise des fonds, et la performance de l'établissement, c'est ça. C'est-à-dire, si vous voulez négocier avec le ministère plus de ressources, c'est là-dessus que vous allez négocier, pas sur le fait que vous insérez. Insérer, c'est la condition de base. Le fait que votre recherche, c'est-à-dire que vous avez des enseignants publiants, qui publient alors dans des revues spécialisées, etc., c'est ce qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle le bonus. Mais à partir du moment où vous demandez à un enseignant qui a tout à fait compris son intérêt de publier, bah, il fait moins de formation initiale, donc il cherche tous les moyens de se décharger de ça. Alors on dit, si vous faites ci, alors à ce moment-là, vous aurez moins d'heures d'enseignement. Il n'en fait déjà pas énormément. Et puis, il ne fait pas de formation continue. Ça ne l'intéresse pas. Il ne fait pas d'alternance, il ne fait pas de VAE. Ça ne l'intéresse pas. Il fait de la recherche. Et il est poussé par la LRU, parce que ça, c'est dans la LRU. C'est clair. Voilà. Bon, réparti sur le territoire, ça, c'est plus mes collègues de province. Nous, ça va quand même sur Paris. Je reviens pas sur les points. C'est effectivement, on a une contribution particulière dans une société qui, dont les rythmes, je dirais, de renouvellement des technologies s'accélèrent. Clairement, c'est souvent dans les universités, au travers de leurs laboratoires de recherche, que de nouvelles technologies se déploient. Hein, il y a beaucoup d'incubateurs, etc. Il faut bien penser à un moment donné la formation des acteurs. Alors c'est assez paradoxal, quand vous regardez les pôles de compétitivité, à l'intérieur de ces pôles de compétitivité, donc qui sont des regroupements d'acteurs autour de thématiques d'innovation technologique, vous avez bien les universités, mais la formation continue, elle n'est pas assurée par ces établissements, elle est souvent assurée par des associations, par des boîtes de formation. Donc il y a aussi ce paradoxe interne d'une communication insuffisante entre certains des pôles que porte l'université, notamment les pôles recherche et la formation continue, qui pourraient décliner les résultats de la recherche en action de formation pour une montée en compétences de public. Donc ça fait partie des paradoxes. Il y a aussi, donc je l'ai dit, hein, le fait qu'on va permettre à des publics très très éloigné initialement de l'enseignement supérieur, de pouvoir y accéder, même si encore une fois, pour m'y être essayé, des publics qui ont quitté les bancs de l'école 3 ou 4 années avant le bac, c'est très très difficile de les insérer, quels que soient les dispositifs. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir que c'est pas redevable, enfin on ne peut pas porter tous ces publics-là. C'est aussi une tendance, vous avez le côté... acteur social dominant de l'université qui fait qu'il faut qu'ils rentrent tous et que c'est important et qu'ils vont réussir, ben non, moi j'en ai vu, on leur a demandé un premier document écrit pour qu'ils nous racontent leurs vacances, qu'on ne saura pas leur demander, je l'avais en façon puzzle, quoi, c'est-à-dire que j'avais à peu près tout, mais les phrases dans le désordre, s'il faut commencer par ça, c'est pas à l'université qu'il faut le faire, il faut entendre que c'est pas possible. C'est probablement une question, c'est entre nous, que les universités s'opposeront, enfin c'est entre nous, je ne suis pas sûr, mais que les universités s'opposeront lorsqu'il faudra d'une manière ou d'une autre orienter, on ne va pas dire sélectionner, mais orienter les futurs étudiants vers les bons dispositifs. Je pense au bac techno, je pense au bac pro, qui sont les bac pro de plus en plus nombreux et qui n'ont pas vocation à suivre l'enseignement supérieur tel qu'il est conçu aujourd'hui. Peut-être sur une année propédeutique, on peut y arriver, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible. Hein, dans certaines filières, le taux de passage en deuxième année est 0% sur ces bacs pro. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à les accueillir ou vous cherchez une orientation active ailleurs? Répondre aux besoins des milieux sociaux, je l'ai évoqué. On a effectivement des socio-économiques, des branches professionnelles qui de plus en plus en fait négocient des partenariats équilibrés. Parce que pendant quand même des années, on a trouvé que les gens de la métallo étaient quand même bien des métallos, ils n'étaient pas gentils. Les gens de la banque, voilà, ils avaient des sous, mais ils ne voulaient pas les lâcher. On commence à avoir des chartes de partenariat plus équilibrées, où chacun a sa place, hein, y compris d'ailleurs les organismes de formation de ces branches professionnelles. Ça commence à venir, mais c'est vrai qu'il y avait une grande défiance des deux côtés, hein, une grande défiance de l'université vis-à-vis de ses acteurs économiques et inversement de ses acteurs économiques vis-à-vis de ses universitaires. On restera néanmoins très vigilant, évidemment, à proposer des formations d'excellence dont nous aussi on soit fiers, qui répondent à un besoin et qui permettent aux individus de rentrer dans une logique de sécurisation des parcours, pas simplement du tout utilitaire. Encore une fois, c'est pas notre métier de base. Alors, après, pourquoi ça reste marginal? Il y a des questions éminemment politiques. Et que je partage aussi, les publics les plus fragiles ne sont pas forcément redevables de l'enseignement supérieur, mais d'autres dispositifs. Le fait qu'on soit confronté à différentes tutelles, hein. Formation professionnelle, c'est la région. Mais en même temps, la région, quand on parle d'université, c'est la recherche. Donc on est du côté du champ de la formation professionnelle, mais on dit, c'est une formation professionnelle portée par les universités, ça doit être traité du côté de la direction des universités. Qui dit, nous on traite essentiellement des regroupements, des pôles de compétitivité, de la recherche. Alors, voilà. Et donc on est encore un peu ballotté entre ces deux sous-ensembles, qui se parlent rarement, qu'on voit rarement ensemble. De temps en temps, on les repère à un cocktail, donc... on dit qu'il faudrait peut-être qu'on voit où on se situe, mais voilà, pour eux, alors du coup, c'est l'AFPA, c'est l'OCNAM, qui eux ont une bonne référence, hein, formation professionnelle. C'est aussi peut-être un peu de notre faute, mais c'est vrai que c'est une difficulté. Manque de lien avec le monde socio-économique, je pense qu'on est au début d'une évolution ou d'une révolution. Il faut effectivement que les milieux socio-économiques soient présents dans les universités parce qu'il y a une lecture de la situation sur le marché du travail, des besoins qui s'expriment, qui est beaucoup plus précise via ces acteurs. Les choses se passent au travers de conseils de perfectionnement qui devraient devenir obligatoires dans le prochain toilettage de la LRU. Mais on voit qu'on a encore du travail à faire. Dans les conseils de perfectionnement, il faut qu'on ait des vrais professionnels qui soient capables d'apporter la contradiction sur les parcours plus académiques qu'on propose. Voilà, c'est une co-construction qu'il faut renforcer, qui s'est bien passée du côté de l'apprentissage. ça a été clair, puisqu'on avait les deux champs qui intervenaient, hein, le champ professionnel sur une partie de l'alternance et le champ plus académique. Il faut que ça se... Enfin, c'est mon avis, il faut que ça se développe encore, parce qu'on n'en est qu'au début. Le résistance du milieu, je l'ai évoqué, hein, c'est l'interne, hein, c'est nos établissements même. Hein. Est-ce qu'on est là pour former les gens à être employables et employés? On est là, nous, alors les universités qui continuent à avoir cette idée qu'on est là pour la promotion sociale. Hein. Il y en a une historiquement qui s'est constituée comme ça, mais qui avance vers la professionnalisation. Mais on a des endroits où ça reste des lieux de résistance. Hein. Il ne faut pas le négliger. On a du mal, hein, quand on parle de la VAE, on a du mal à les basculer sur ces dimensions-là. On est sur des dispositifs qui n'ont pas été conçus pour ces publics adultes reprises d'études. Les universités, elles ont été conçues au départ pour s'intéresser à des jeunes qui sortent du bac et que l'on prend et que l'on met dans des parcours en souhaitant qu'ils réussissent. Alors, les difficultés, c'est qu'avec la massification de l'enseignement supérieur, on s'est aperçu que ce qui était mis en place devait s'adapter. Et puis, comme on commence à avoir des publics qui n'étaient pas prévus par l'organisation initiale, on continue à avoir d'autres difficultés. Donc, quand je réponds, par exemple, vous avez combien de salariés dans votre entreprise et que je dis il y en a 5000, je suis presque une multinationale. Donc vous voyez ce navire qui doit bouger, qui doit se réformer, le temps que ça prend, quoi. Avec des statuts divers et variés, certains protégés, enfin, vous pouvez tout imaginer. C'est sûr que on aimerait que ça bouge, enfin, moi j'aimerais que ça bouge plus vite, mais ça reste difficile parce que quand vous déplacez une virgule, vous avez le mal de mer. Manque de reconnaissance, alors c'est un peu ce que j'évoquais initialement, c'est qu'effectivement ces services qui portent la formation continue, rencontrant certaines des difficultés que j'ai évoquées, vont finalement y répondre en propre. J'ai un problème pour ouvrir un diplôme en formation continue, je le mets chez moi. Et donc on commence à avoir des espèces de blocos, on a pu avoir des espèces de blocos qui géraient tout, qui répondaient à tout, mais qui étaient complètement extérieurs à l'organisation de la maison mère. Et qui par ailleurs brassait des millions d'euros. Ça fait envie. Alors évidemment, on changeait les cadenas tous les jours, pour pas qu'on puisse rentrer, mais on a commencé à se dire, mais c'est nos certifications, c'est un service commun, et en même temps, on sent bien qu'il est complètement en dehors du système. Des critiques que j'ai encore, même si c'est pas vrai, ça reste une espèce de fantasme qui est que là, il y a l'oncle Picsou avec son coffre-fort, et donc oncle Picsou, il faudrait qu'il ouvre son coffre-fort. Des fois, dans le coffre-fort, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, c'est... Donc du coup, cette reconnaissance, cette ingénierie, elle est cloisonnée, elle n'est pas reconnue par l'organisation, et elle peut amener à des démantèlements un peu violents des services, comme je l'ai évoqué en introduction. Alors comment on peut valoriser tout ça ? Il y a un vrai travail, et là, c'est le rôle de l'association, de la conférence, de la FCU, Formation Continue Universitaire. Il y avait un vrai travail auprès des politiques pour indiquer combien il est important que nos établissements soient des acteurs de cette formation continue et combien il faut que le politique reconnaisse son rôle en matière d'impulsion. Des fois on est un peu entendu, souvent on ne l'est pas, parce qu'encore une fois ils ont d'autres préoccupations, mais c'est vrai que on est aujourd'hui, je ne vais pas dire que la ministre nous reçoit tous les 4 matins, ce serait un grand mensonge parce qu'elle ne nous reçoit jamais, mais on a des relations avec le cabinet qui sont beaucoup plus naturelles, notamment parce que ce sont des collègues qui sont au cabinet, c'est peut-être pour ça, avec qui on peut discuter des problématiques spécifiques de la formation continue, à nous quand même d'être vigilants pour ne pas faire de cette activité-là l'élément central de tous les dispositifs à réformer, parce qu'on ne serait pas entendu. Reconnaissance institutionnelle, c'est une reconnaissance plutôt destinée au président d'université. Vous avez encore beaucoup d'universités où cette dimension-là est mal connue, mal portée politiquement et stratégiquement, et notre rôle à nous, au travers du colloque, au travers des réunions qu'on peut produire avec la conférence des présidents d'université, c'est d'expliquer les spécificités de nos métiers, le rôle de nos établissements, de travailler sur, j'évoquais en introduction aussi, des conventions avec les branches professionnelles, de voir apparaître cette dimension-là et pas simplement les stages, l'apprentissage, la recherche. Ça, c'est notre travail, ça se fait. Mais il y a encore du chemin, évidemment. Il y a une nécessité, là plus sur la logique territoriale, je disais, on a à peu près tout ce qu'il faut pour répondre à une partie des besoins des individus, quelle que soit leur situation, dès lors, encore une fois, que ce sont des personnes qui sont redevables de l'enseignement supérieur. Moi, je suis encore très frappé dans les réunions, lors des réunions que j'ai en région, d'une connaissance très partielle de ce que peut apporter le DAE, par exemple, couplé à un certificat professionnel. Parce qu'on peut très bien se dire... ce diplôme équivalent au bac, je le prépare et il y a deux des modules qui correspondent à un certificat de qualification. Tout ça est possible. Donc, encore une fois, il faut simplement que nous, on en soit conscients et qu'en même temps, nos partenaires n'hésitent pas à demander l'impossible. Quelquefois, on ne pourra pas y répondre, mais souvent, c'est par méconnaissance, je dirais, de ces dispositifs qu'on n'arrive pas à construire et à ancrer notre activité sur un territoire. Le RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles, alors là, lisibilité, ça c'est juste un vœu pieux, puisque nous, je pense que 70% de nos certifications attendent de rentrer dans le RNCP, mais il y a 15 ans dans l'un, ce qui est obligatoire aujourd'hui, hein, donc dans ce qu'on appelle les vagues contractuelles, c'est-à-dire les contrats qui sont quinquennaux tous les 5 ans, vous êtes obligé de produire la fiche RNCP associée à votre certification, voire de la toiletter lorsqu'elle existe. Donc tous les ans, vous avez des milliers de fiches qui arrivent du côté du CNCP. Alors là, c'est bon, donc nous, ça rentre pas. Donc vous verrez les listes. Pratiquement, les licences pro, vous les avez les DUT, mais les masters, vous les avez pas. Alors, ceci étant dit, nos certifications sont de droit inscrites au RNCP. On nous l'a beaucoup reproché, mais au moins, on se dit aujourd'hui, c'est une bonne chose. La CNCP nous produit en fait une attestation. Il n'empêche qu'en termes de lisibilité, c'est quand même très partiel de simplement dire qu'on est dedans parce que de droit on y est. Ce serait bien qu'on y soit réellement. Pourquoi il y a si peu de DU ? La première raison, c'est que pour pouvoir, on va dire, être homologué et rentrer au RNCP, vous devez produire les résultats de 3 cycles complets. Donc de toute façon, ça veut dire que vous êtes sur un DU qui est construit avec une certaine pérennité. Donc il faut que vous donniez à la commission en charge des informations sur la première, la deuxième, la troisième promotion, qui, le pédigré, les résultats, etc. Deuxième, c'est que vous avez dans la commission régionale, donc qui n'est pas nationale du coup, hein, quand c'est un DU, vous avez un représentant du ministère. Et là, les choses sont très claires. Ou le DU correspond à une situation intermédiaire entre le bac et la licence, entre la licence et le master, c'est-à-dire bac plus 1, bac plus 2, bac plus 4, et vous avez une chance d'avoir un avis favorable, ou alors, immédiatement, il vous conseille de rentrer dans une logique de licence pro, dans une logique de master. Du coup, beaucoup des DU vont être en phase, je dirais, de test, avant d'être déposés, soit dans le cadre d'un master, soit dans le cadre d'une licence pro. Donc ils ont vocation pour une partie à s'éteindre. Et les autres, ils n'ont pas besoin du RNCP. Parce qu'ils sont reconnus par la profession et par l'OPCA, ils sont très spécifiques. Ils pourraient rentrer dans le RNCP, mais vous pourriez avoir un blocage de l'université considérant que c'est trop centré sur le métier et pas assez aussi sur des compétences transversales, par exemple. Mon travail, je l'ai dit, spécifique pour l'accès des publics éloignés. On a des publics qui sont de plus en plus décrochés. Hein, s'intéresser aux décrocheurs, c'est aussi être en capacité d'y répondre, c'est-à-dire que c'est adapter le dispositif qu'on leur propose. Ça aussi, c'est un point que les services formation continue portent souvent, enfin un aspect qu'on porte souvent, parce que bah oui, nous aussi, on a des publics qui ne sont pas des publics en facilité par rapport aux formations, et donc à qui on propose des accompagnements particuliers. Et puis, il y a une montée en compétences aussi des acteurs de nos organisations, parce qu'on montait un parcours qui touche de la VAE, qui touche de l'individualisation, qui touche du stage, qui touche du bilan de compétences, ça nécessite d'avoir une capacité à concevoir ces parcours de façon, une façon différente des conceptions classiques, hein, qui est, encore une fois, vous rentrez à telle date et vous sortez à telle date. Alors comment on peut peut-être essayer de... Du coup, je suis bavard. Comment on peut essayer d'évoluer ? Alors on a un cadre qui a maintenant quelques années, qui est la charte européenne, qui a été signée hein, par Pécresse, par Madame Pécresse, à Bordeaux, je crois, de mémoire, et qui est cette charte sur l'apprentissage tout au long de la vie, qui ne concerne pas que nos activités, que la formation continue, mais qui indique le chemin à suivre pour nos établissements, de manière à concevoir notre organisation dans le cadre de la formation, de l'apprentissage tout au long de la vie, ce qui veut dire être ouvert à des parcours qui vont se construire dans la durée, et pas simplement considérer que la sortie de la formation initiale, c'est quelque part la fin de la formation tout court, sauf sur des cycles courts de formation continue. Ils l'ont signé, de là à que ça se déploie, ça va évidemment prendre un petit peu de temps. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut que nos établissements, dans le cadre des contrats qui sont soumis au ministère, et inversement que le ministère qui évalue les contrats, introduisent cette dimension, j'allais dire, pour être dans l'excès, d'entrée et de sortie permanente, des dispositifs qu'on porte, notamment des dispositifs certifiants, diplômants. C'est pas simplement un problème de volonté, c'est aussi un problème de système d'information, hein, d'outils de gestion, de contrôle, qui est à revoir. Et on avait, il y avait une réunion importante hier à avant-hier sur Toulouse qui concernait cette dimension, c'est-à-dire finalement un individu qui rentre, comment on l'inscrit, comment on le suit, tout un tas de choses qui vont être modifiées par cet engagement autour de la formation tout au long de la vie, et on est sur des cycles de production de systèmes d'information qui sont sur 10 ans. On n'est pas sur des réponses à court terme. Donc c'est vraiment une évolution qui va prendre un petit peu de temps, mais qui est évidemment tout à fait nécessaire. C'est évidemment être en capacité de proposer en termes d'apprentissage, en termes de parcours de formation, des dispositifs de plus en plus diversifiés. C'est aussi reconnaître de façon plus naturelle, plus systématique, les compétences acquises dans le cadre des parcours professionnels, sans qu'on soit obligé de passer par des dispositifs qui demandent, ce qu'on a vu initialement, 9, 10, 12 mois. Donc tout ça aussi, cette notion de réactivité, de prise de décision rapide, il va falloir aussi s'y atteler. Bon, après, on retombe toujours sur ce qui fait notre... ce qui est notre élément fédérateur, c'est-à-dire l'idée qu'on va quand même réfléchir à la façon dont on construit tout ça. Donc là, on est sur programme d'études et de recherche. Il faut aussi que l'on, pour les universités, pas forcément les services formation continue, mais au moins que l'on prenne en charge les éléments d'orientation, hein, j'ai évoqué, mais pas les orientations qui produisent de l'orientation interne aux organisations, mais on est bien, quand on parle de formation tout au long de la vie, sur des logiques à minima régionales, parce que certains publics qui ne seraient pas redevables de nos établissements doivent pouvoir, évoluer vers d'autres dispositifs, et il faut que ces dispositifs se parlent. Alors il se trouve qu'en général, ils sont financés par les mêmes acteurs, c'est la région, mais quand même. Et puis les activités de conseil, et puis ce que j'ai évoqué, la reconnaissance assez accéléré des acquis de l'expérience sans passer par ces dispositifs qui peuvent paraître très très lourds. Autre point qui commence à apparaître dans les établissements, c'est cet engagement, alors démarche qualité, engagement qualité, cet engagement que l'on doit proposer à nos étudiants, à nos stagiaires de la formation continue, à nos candidats de VAE, engagement dans une démarche où la qualité des prestations, des dispositifs, des accompagnements proposés aux individus sont parfaitement référencés, actés et contractuels. Ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place, parce que vous voyez, on est toujours sur des dispositifs qui mobilisent différents acteurs à l'intérieur d'une organisation, et que autant moi dans mon périmètre je sais comment faire pour maîtriser ma démarche qualité, autant quand je quitte mon périmètre et que je vais chercher les personnes qui inscrivent, les personnes qui délivrent les diplômes, je suis un peu moins en capacité de fédérer. Recherche, enseignement, innovation, on l'a évoqué, j'ai parlé des pôles de compétitivité. Nécessité de penser des dispositifs pour tout le monde, flexibles, créatifs, parce que certes, On a tous les dispositifs à notre disposition, il faut qu'ils se parlent, mais il faut qu'ils se parlent et qu'ils s'adaptent les uns aux autres. Je parlais de la banque, le plus difficile dans la banque, ça a été de faire admettre, je dirais, une validation des acquis accélérée sans le dire. Parce qu'on avait là une contrainte de temps, mais finalement on y arrive. Simplement, il faut trouver deux ou trois porteurs qui bougent un petit peu les lignes. Peut-être que ce dispositif, il est provisoire. On a une réunion, un comité de pilotage en janvier. Peut-être qu'on va le réajuster fort de la première expérience. C'est cette réactivité-là qui fait la qualité, je dirais, de ces dispositifs. C'est la capacité à les faire bouger. Développer des partenariats... au niveau local, régional, qu'on le veuille ou non, le territoire de référence pour les universités, le territoire de référence, je pense, pour tous les acteurs de la formation continue, c'est bien au minimum la région. Enfin, en tout cas, c'est la région, c'est même plus l'académie. Avant, on était assis sur un recteur et une académie, ça n'a plus de sens. Les regroupements d'universités font que l'université de banlieue comme Paris 13 est associée à des universités parisiennes. Donc, je veux dire, ça transgresse les logiques territoriales et administratives. Et donc, évidemment, aujourd'hui, pour nous, le recteur, je ne sais pas qu'on s'en moque, mais on sent bien que ce n'est pas lui qui va porter les développements sur un territoire donné, c'est la région. Alors, pas que simplement en formation continue, mais notamment en formation continue. Donc, ce travail-là, les conseillers généraux sont complètement absents. En plus, dans certains départements, ils ont d'autres sujets de préoccupation que la formation continue. Donc ils forment leurs acteurs, mais ils ne sont plus porteurs de projets de territoire. Par contre, la région de plus en plus, donc il y a vraiment à travailler ces partenariats. Au niveau local, ça veut dire pas simplement nous, université, mais avec l'ensemble des acteurs de la formation continue. Je travaille, alors mes collègues universitaires, j'ai travaillé parce que j'ai changé d'établissement, mais mes collègues universitaires m'ont un peu critiqué, avec un cabinet d'accompagnement VAE privé, simplement parce qu'il avait une entrée auprès des experts comptables et que moi j'avais une certification, un master contrôle audit qui les intéressait, mais que je n'avais pas les entrées dans les grands cabinets et que c'était donnant-donnant. Donc on travaillait ensemble, ils m'accompagnaient avec mes équipes et en même temps je produisais ma certification, ce qui est mon métier. Peu importe. On m'a dit tout chez nous et surtout pas avec le privé. Certains. Hein. Donc ça aussi c'est des évolutions de mentalité qui sont réelles, mais qu'il faut encore renforcer. Et l'idée, c'est quand même qu'on arrive à modéliser, je ne sais pas si le terme est juste, un dispositif d'apprentissage, formation tout au long de la vie, qui mette en réseau l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, du niveau 5 et infra 5 jusqu'au niveau 1, avec l'objectif, c'est tout au long de la vie, si nécessaire, il y a des possibilités effectivement de poursuite d'études, d'acquisition de nouvelles compétences et tous ces acteurs-là, ils doivent se parler. Alors, on est dans le vœu pieux parce que chacun porte ses propres intérêts, mais on sent bien que du côté de la région Île-de-France, il y a une vraie volonté quand même de faire que ces acteurs se rencontrent et essayent d'envisager des réponses conjointes. On pourrait très bien imaginer d'avoir des parcours qui aillent chercher des éléments d'enseignement d'un BTS, qui est bien de l'enseignement supérieur mais pas universitaire, qui puisse permettre d'aboutir sur une licence pro parce qu'on est dans la continuité de parcours. On peut aussi construire des réponses sans cloisonnement d'acteurs. C'est compliqué parce que pour l'instant le cloisonnement est réel, mais c'est quand même des perspectives à 10 ans qu'il faut essayer d'avancer. Il y a plein encore de freins à lever. Moi je suis assez optimiste hein, parce que je pense que ça fait maintenant une quinzaine d'années que, un peu plus de 15 ans que je suis à l'université. Oui, c'est une université, c'est un lieu vivant, à la fois, c'est-à-dire sur certains points archaïques, même si ça porte l'innovation, c'est un peu le paradoxe. Qui n'est pas forcément innovant là où moi j'ai envie de la voir innover. Je pense que sur le côté de la formation, sur le côté des publics, je crois que c'est un lieu qui doit bouger et encore bouger. Maintenant, on commence à avoir, pour des bonnes et des mauvaises raisons, de la part de nos établissements, une écoute. Pour des bonnes raisons, c'est parce qu'on se rend compte que 20%, 25% du public n'est pas un public classique. Pour de mauvaises raisons, parce qu'on pense que derrière le coffre-fort de la formation continue, il y a des marges de manœuvre pour financer d'autres opérations. Je vais dire, peu importe si les mauvaises raisons nous permettent de répondre à ce public un peu nouveau et d'être des acteurs de la société engagés, on laissera dire. Après, quand ils ouvriront le coffre-fort, ils verront qu'il n'y a pas grand-chose. Mais ça, c'est une autre histoire.